disait hein, qu'il n'arrivait pas à travailler ces questions-là de manière satisfaisante, manquant d'outils, manquant de clarté dans les directives institutionnelles. Hein. Et je voulais juste vous montrer quelques extraits, j'en ai beaucoup, et puis ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais publier parce qu'elles sont magnifiques, ces biographies langagières. On en parlait tout à l'heure avec Ether et Nadia parce que ces biographies langagières que l'on demande de faire, nous, à nos étudiants qui se destinent à être enseignants, les amènent à s'interroger sur leur vécu avec les langues. Et leur vécu aussi avec la langue française qu'on leur a enseignée à l'école. Et j'ai énormément de témoignages de souffrance parce que des enseignants, pour le bien des élèves, pour les aider à réussir leurs évaluations, pour les aider à réussir demain vis-à-vis du regard méprisant que l'on pourrait avoir sur leur manière de parler, ont eu des gestes de sanction qui ont amené à du mutisme, à du repli. Moi, j'ai des étudiants en licence qui n'ouvrent pas la bouche, qui ne parlent pas, parce qu'on leur a appris finalement à se taire tant qu'ils n'étaient pas sûrs. On a quand même beaucoup d'enfants, d'étudiants qui viennent de quartiers populaires à l'université. J'en suis très heureuse, même si certains collègues se lamentent de leur mauvaise maîtrise de la langue. Moi, je trouve ça une réussite qu'on arrive à que ces personnes-là soient chez nous. Vous voyez quelques-uns de ces témoignages. Je ne sais pas si le diaporama pourra être mis quelque part pour lire ça. Posément, hein, mais cette douleur, ces moqueries, qui conduisent jusqu'à des étudiantes qui nous disent avoir passé l'oral du CAPES et à qui on a dit non, c'est vraiment pas possible avec votre prononciation des O et des E qui ne sont pas formulés. Hein. Et je me souviens d'un de mes étudiants qui avait réussi l'écrit de prof des écoles. Il m'a dit « je ne vais pas aller à l'oral ». L'inspectrice était venue lui dire, en l'inspectant, qu'il fallait qu'il soit modélisant. Il m'a dit « moi, je n'ai pas envie d'être un modèle ». Puis un modèle qui a été choisi par qui? Parce que la question qu'on a à se poser, c'est qui décide de la langue que l'on doit maîtriser, hein? En le disant en termes simples, c'est quand même une classe bourgeoise dominante, hein? Et quelque part, on transforme les enseignants en agents d'un groupe dominant auquel on n'adhère peut-être pas, nous, dans notre vie sociale. Hein. Un de mes anciens doctorants, qui est docteur aujourd'hui, disait que souvent, que finalement, l'institution amène l'enseignant à oublier son identité sociale au profit d'une identité institutionnelle. Hein. Voilà, donc nous sommes des acteurs glottopolitiques, que pouvons-nous faire, hein? Cet exemple est intéressant parce que c'est une maître E qui dit à l'élève, l'élève lui dit, pour elle c'était poli, maîtresse je peux aller pisser, et elle lui dit juste de manière outrée, on parle pas comme ça. Oui, mais là tu as rien enseigné à l'élève. Tu lui as dit que sa mère parlait mal, parce que si elle dit ça, enfin sa mère, son père, son environnement immédiat, si elle dit ça, c'est qu'elle l'entend autour d'elle, et tu ne l'as pas amenée à réfléchir à la langue, à réfléchir aux effets de tes énoncés sur l'auditoire que tu veux convaincre. Hein. Et nous, on cherche quand même à doter les élèves du pouvoir de la parole, parce que pour être des citoyens éclairés avoir un esprit, enfin, pouvoir argumenter et intervenir dans le débat public, on a besoin d'avoir confiance en notre sécurité, enfin, confiance en notre capacité à nous exprimer. Et c'est pas que pour les profs de français, hein. Cet étudiant qui est aujourd'hui prof d'espagnol est d'origine espagnole. Et pendant ses cours d'espagnol, on a cessé de le corriger parce que son espagnol à lui, qui venait du sud de l'Espagne, c'était pas l'espagnol de l'Académie madrilène. Hein. Et je retrouve ça dans énormément de biographies langagières d'étudiants qui vivent mal au début que je remette en question la langue qu'on nous a enseignée. La bonne langue, et finalement qui finissent par voir les dégâts que cela provoque chez les enfants. Je n'ai pas regardé l'heure, et si je suis, vous me couperez. Et je crois aussi que, du coup, ces discours dominants, ces discours de l'institution, alors qui changent hein, au niveau de l'accueil des langues familiales des élèves, mais ces discours-là amènent des enseignants, par exemple, à avoir ce type de règlement scolaire. Il a changé hein, suite à un travail de plusieurs années avec cette école. mais à rejeter d'autres langues que le français. Donc cette pluralité linguistique qu'on a partout dans nos villes plurilingues, on la rejette dans l'école, en se disant c'est le seul espace où ils peuvent entendre le français, alors il faut préserver cet espace-là. Et la pluralité est liée à du conflit. Je me souviens une fois avec Claude Manchet, on présentait notre travail, celui-là, d'intégration, d'implication des parents dans l'éducation plurilingue et interculturelle. Et un proviseur nous dit, mais vous êtes en train de balkaniser l'école. Il ne voyait que du conflit à travers cette question de voir les langues au pluriel et la culture au pluriel, alors qu'on lui montre que cognitivement, on développe des tas de capacités en accueillant cette pluralité, en la mettant à distance pour la réfléchir. Les travaux du sociologue de l'éducation Bernard Lahire montrent bien que les enfants en échec scolaire, ce sont les enfants qui n'arrivent pas à mettre la langue à distance pour l'observer. Parce qu'on est aussi beaucoup dans des implicites et qu'on ne didactise pas assez. On donne des exercices structuraux, des exercices avec des étiquetages grammaticaux. C'est quoi le complément d'objet second? Vous voyez, c'est pas ça qui aide à prendre le pouvoir de la parole. Philippe Blanchet, je lui avais donné ce témoignage que m'avait confié une prof des écoles. Et Philippe Blanchet l'a mis dans son ouvrage. C'est bien sûr que les enseignants ne sont pas des monstres, ils font pas ça. Ils font ça en pensant que ça va aider l'enfant. Hein. De dire à l'enfant, ben non, ici en France, le H, il n'est pas inspiré. Quoi. L'enfant, il se met à pleurer. Cette enseignante était encore en formation, elle m'a dit, j'ai rien osé dire, mais elle était bouleversée quoi, de n'avoir rien dit. Et ça, ce sont des propos d'enseignants que j'ai recueillis. Ce n'est pas pour les accabler, hein, c'est que, voilà, on reproduit ce que certains d'entre nous avons vécu dans nos histoires familiales. Hein. Moi, je devrais parler piémontais, breton, enfin des variantes du piémontais, des variantes du breton et du provençal. On ne les a pas transmis, mes ancêtres, on leur a dit, attends, pour réussir à l'école, et puis pour t'assimiler, enfin t'intégrer, assimiler à l'époque, il faut taire ces langues-là. Or, tous les travaux, enfin. Les travaux de Jim Cummins au Canada datent les premiers de la fin des années 70, montrent les capacités métalinguistiques et pilinguistiques importantes, la créativité, l'abstraction qui se développent si on accueille la diversité des pratiques linguistiques des élèves. Et les travaux montrent aussi que le langage ne se développe pas avec une langue. Hein, on confond langage et langue. Et le dernier témoignage, c'est une formatrice, ça a été recueilli. Quand je dis ça, j'ai peur après qu'on n'accueille plus mes étudiants, enfin nos étudiants, le mais est affectif, sur le terrain, il faut continuer à les accueillir. Mais elle me dit, j'ai entendu la formatrice dire ça à une étudiante qui était contente parce qu'elle se disait, je parle déjà trois langues, apprendre le français ça va être rien, puisque je connais les mécanismes d'apprentissage des langues, donc je vais pouvoir apprendre vite, et elle s'entend dire ça. Pour apprendre une langue, la langue, tu dois écraser les autres. Les pratiques linguistiques familiales dans les entretiens qu'on a avec des enseignants avec qui on travaille, parce que moi, je ne fais que de la recherche-action de terrain. Je ne suis pas une linguiste expérimentaliste. Je combats même cette vision des simplistes de la recherche. Et je pense que ce n'est pas le chercheur en surplomb qui trouve des choses, mais c'est les enseignants qui nous aident parce qu'on co-construit des savoirs ensemble hein, et on réfléchit ensemble. Voilà, cette enseignante qui ne voyait pas... Alors, c'est intéressant, cette enseignante était une militante du genre. Et elle ne voyait pas dans la question de l'enseignement différent... Enfin, enseigner autrement la langue, en quoi c'était un acte politique, en quoi c'était un engagement politique et social. Après, elle l'a vu, hein, parce qu'on a, voilà, on a discuté clairement. Hein. Pour elle, la difficulté des enfants, c'est... le fait de grandir avec plusieurs langues. Hein. On ne le dit pas des enfants qui grandissent avec l'anglais ou rarement, hein, en plus. Donc il y a quand même une discrimination vraiment aussi en fonction des langues. Alors, en France, c'est la diapo suivante, on est particulièrement crispé sur la langue standard, la belle langue, la bonne langue, mais on n'est pas les seuls. Il y a un livre à grand, grand succès au Brésil qu'on a découvert il n'y a pas longtemps de Marcos Bagno sur les préconçus linguistiques, les idées reçues linguistiques, et vraiment il consacre à peu près ce que dit Philippe Blanchet avec d'autres exemples pour la France. Et Sandrine Sorlin analyse la même chose pour l'anglais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ces grandes langues de colonisation, finalement, les grandes langues d'empire? Je ne sais pas. Les discours institutionnels ne nous aident pas. Ici, tout le monde connaît le pré-rapport Benisti qui a été amendé suite au fait qu'on se soit soulevé, les syndicats, les sociolinguistes, les ethnopsychiatres, beaucoup de monde. Mais il a remis une couche en 2010. Hein, il faut regarder ce qu'il a... Voilà, en 2010, il continue de dire qu'il est important que les parents parlent français à la maison. Et du coup, moi, j'entends des enseignants me dire « Oui, c'est bien qu'ils maintiennent leur langue familiale, mais quand même, il faut à côté qu'ils parlent français. » Qui sommes-nous pour avoir une ingérence dans ce qui se pratique en famille, hein? Et puis en plus, c'est ignorer, comme je disais tout à l'heure, les travaux qui montrent bien que c'est important que les parents parlent dans la langue dans laquelle ils sont la plus confortables, la langue de l'intime, la langue de l'identité, la langue où ils peuvent développer des discours riches. Hein? Le rapport Bockel, hein, vous connaissez aussi, alors on ne voit pas la fin qui parle de devoir d'intégration qui commence par l'acquisition de la langue. On n'a pas demandé à nos ancêtres, pour avoir la nationalité française, de maîtriser le français. Hein. Je pense que mes arrière-grands-parents ne maîtrisaient pas du tout le français comme on le demande aujourd'hui. Et puis, il y a des discours de chercheurs qui sont médiatisés, parce que le monde de la recherche est fait aussi de disparités. On n'est pas tous d'accord sur ces questions-là. Bentolila est très très fort pour montrer qu'il est plein de compassion et qu'il voudrait aider ses enfants, ses jeunes, mais en même temps il tient des propos qui sont étayés par aucune recherche de terrain. Donc où il dit que les jeunes des quartiers ont 450 mots, une autre fois il va dire 800 mots, enfin bon. Vous savez bien qu'on a eu aussi, alors ça a été contesté, mais que Racine aurait écrit ses pièces avec un nombre limité de mots, hein, moins de 1000 mots. Voilà, il parle de ces personnes comme étant des pauvres du langage. C'est vraiment ne pas connaître leur répertoire linguistique. Ils grandissent avec 2-3 langues, c'est courant. C'est nous qui sommes assez pauvres, nous qui avons grandi dans une conception très monolingue. Voilà. Il parle de déficit de langage, Hervé Adami pareil. Hervé Adami qui a participé, qui est un chercheur de Nancy, que j'apprécie par ailleurs, mais qui conforte le paradigme maîtrise de la langue égale intégration. Alors des tas de travaux, notamment de Philippe Ambi en Belgique et Sophie Romainville, vous pouvez le télécharger, ce petit document que j'ai mis là, maîtrise du français et intégration des idées reçues, revues et corrigées. La thèse de Luc Bichelet de l'Université d'Avignon et puis beaucoup de ses travaux montrent bien que non, ce n'est pas la maîtrise de la langue qui amène le sentiment d'intégration, qu'il y a des tas de professions. Et mes étudiants aujourd'hui en français sur objectif spécifique, français des professions, on fait des enquêtes auprès de maçons, on fait des enquêtes dans une entreprise de recyclage de métaux, enfin plusieurs enquêtes montrant qu'il y a des tas de métiers où on ne vous demande pas de parler déjà. Et on ne demande pas une maîtrise de la langue. Hein. Et puis maintenant, aujourd'hui, on vous demande surtout de maîtriser l'anglais, puisque le français. Alors après ces constats rapides, quelle pratique pour résister à la glottophobie? Quelle pratique pour ne pas créer ou renforcer de l'insécurité linguistique chez nos élèves? Alors bien sûr, Claude Richer Momanchet me dit « il faut commencer par dire aux enfants qu'on est dans une société qui juge les gens sur leur manière de parler, oui. » Parce que je crois qu'on ne le dit pas clairement aux élèves. Je me souviens d'une élève qui dit « mais pourquoi on apprend le français, on le parle déjà ?» Hein, parce qu'il faut penser aussi à ceux qui grandissent avec ça, ils ne comprennent pas. Hein. Donc leur dire clairement que oui, on est là pour apprendre la langue des dominants, la langue dominante, la langue avec laquelle tu réussiras plus facilement un entretien, on t'écoutera plus. Mais en même temps, nous, on n'a pas envie de renoncer à changer le monde, à changer la société. On a envie aussi, en formant des jeunes, d'amener quelque chose, de semer une envie de modifier cet ordre des choses et qui peut ne pas être immuable. Hein. Et déjà, en leur disant ça clairement, Jean Genet disait bien qu'il fallait apprendre la langue du bourreau, parler la langue du bourreau pour que le bourreau t'écoute. Donc on peut dire ça clairement aux élèves. Et on écoutera tout à l'heure Ryan et je ne sais plus si c'est Belkacem, deux élèves du projet radio qui nous expliquent bien que dans le quartier, on parle une autre langue, ça ne pose pas de problème. Mais à la radio, si on veut que les gens ne changent pas de chaîne, il va falloir qu'on parle bien. Et, hein, donc ils jouent, hein, ils ont une palette, hein, comme un peintre qui a plusieurs couleurs, et ils apprennent, et du coup, il y a une énergie extraordinaire. Tous les enseignants qui sont rentrés d'abord doucement dans ce projet, ensuite nous ont dit, on en a fait un documentaire que j'avais proposé qu'on passe un jour éventuellement, nous montrant combien ce projet amène les élèves à comprendre le sens du travail sur la langue, à part